Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 18. Premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 18. Voilà. 1 Samuel, chapitre 20, verset 18. Jonathan dit à David, « C'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché, le jour de l'affaire. Et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre des ailes, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme. Et je lui dirai, va, trouve les flèches. Et je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre. » Donc il s'adresse à David, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors, il s'adresse toujours à David, il lui dit, « Va-t'en, car l'Éternel te renvoie. » L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. J'ai donné un titre au message de ce matin, et ce titre est celui-ci, « Une protection qui ne fait pas défaut ». Quand nous regardons justement le contexte de ce que nous avons lu concernant David, et puis Jonathan est présent, le contexte nous parle de danger qui menace la vie de David. Et David, à plusieurs reprises, parce qu'il est en danger par rapport à Saül, mais David, à plusieurs reprises, va rechercher maint refuge, différents refuges, auprès de diverses personnes. Et durant cette période où David va fuir certains dangers, David va ponctuer son parcours par une démarche qui est celle de rechercher une protection, et nous nous rendons compte au travers des écrits, de l'écriture, qu'il va trouver très souvent refuge dans des grottes, auprès des rochers, et David va ainsi pouvoir trouver une certaine sécurité. Et quand j'ai souligné qu'il va avoir, durant cette démarche où il cherche de la sécurité, une protection, qu'il va trouver là différents rochers pour se protéger, bien, c'est déjà parlant pour chacun d'entre nous, parce que dans le cadre de la Nouvelle Alliance, en tant que croyant, notre protection est en Christ. Et le rocher, ou les rochers vers lesquels David va se réfugier, nous parle de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une typologie. C'est un type de Christ. C'est une image, si vous préférez, qui nous ramène à Christ, et Jésus est le rocher par excellence. Et en se cachant dans de tels endroits, dans de telles grottes, auprès de ces rochers, David va, je le répète, trouver la sécurité, malgré tout, recherchée, parfois elle est très aléatoire, mais malgré tout, il va essayer à trouver cette protection. Moi, j'insiste, par rapport à Christ, nous avons une réelle protection. Le premier rocher, nous l'avons lu ici. Quand je dis le premier ou la première protection, c'est parce que mardi soir, qui vient, je verrai la suite de ce message. Donc, si vous voulez entendre la suite, venez mardi soir. Mais le premier rocher ici que nous trouvons, c'est ce rocher qui va se prénommer, qui se prénomme Ézel. David a un autre besoin ici, celui de trouver une protection à ce moment-là, justement. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est en péril parce que Saül, le roi d'Israël, a des intentions meurtrières contre David. Jonathan va tout faire par rapport à l'amitié extrêmement forte qu'il a à l'égard de David, tout faire pour aider David par rapport à toute la colère qui anime son propre père, le roi Saül. Donc il est en péril. Et comme David est en péril, il a besoin d'une protection, mais en même temps, il a besoin de plus qu'une protection. Il a besoin de connaître quelle décision il doit prendre. Ça, c'est important. Alors, il va s'entretenir avec Jonathan, Jonathan avec David, et ils vont convenir ensemble, je vais l'exprimer ainsi, ils vont convenir d'un code afin que, par ce moyen-là, Dieu puisse parler et montrer à David la direction qu'il doit prendre. Et la pierre d'Ézel, dont il est question dans le texte, va servir de repère. Le rocher d'Ézel, comme beaucoup d'autres noms de lieux, noms de personnes, dans la Bible, ont une signification intéressante. Ce rocher, Ézel, a un nom qui signifie ceci, ce qui indique le chemin. Ou encore, la pierre de l'itinéraire. Ou encore, une autre traduction par rapport à ce mot hébreu, Ézel, la pierre d'où part la route, ce qui indique le chemin, la pierre qui montre l'itinéraire, ou la pierre du démarrage, du départ d'une route précise à prendre. Mes frères et sœurs, je disais tout à l'heure que Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Le rocher qui tient bon. Celui qui nous accorde sa protection, qui nous entoure de toutes parts, par derrière, par devant, sa bonne main est sur nous. Et en même temps, le Seigneur veut non seulement nous montrer, nous rappeler qu'il est avec nous, qu'il prend soin de nous, mais en même temps qu'il est celui qui veut nous faire comprendre qu'au-delà de la protection qu'il nous accorde, il veut nous montrer le chemin que je dois suivre. En tant que chrétien, en tant que croyant, nous avons un adversaire, c'est le diable. Et avec le diable, il y a la réalité du péché, il y a la réalité de la désobéissance, la réalité du mensonge, la réalité de l'iniquité, la réalité de la perversité, la réalité de tout ce qui s'oppose à la sainteté de Dieu. Et lorsqu'un croyant, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, un disciple de Christ, est menacé, et c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement par le tentateur, par l'adversaire, par Satan, par le diable, il a besoin de prendre, eh bien, la bonne direction, c'est-à-dire celle de se tenir auprès de Jésus, de demeurer en Christ, mais également, il a besoin de prendre les bonnes décisions afin de ne pas tomber entre les griffes de l'adversaire, surtout dans des moments où il y a peut-être des indécisions. Ici, je disais que Ézel signifie ce qui indique le chemin, l'itinéraire, d'où part la route. Christ est le rocher qui indique la route que je dois prendre, que je dois suivre, que je dois choisir. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est quelque chose de tout à fait logique pour ma vie spirituelle. Non, c'est pas logique. Parce que notre humanité, notre chair, peut prendre le dessus et nous indiquer un autre chemin. Nous indiquer d'autres principes qui sont contraires à ceux de Dieu, à ceux de l'Esprit de Dieu, à ceux de la parole de Dieu, à ceux de la volonté de Dieu. Christ demeure et demeurera toujours le rocher qui indique la route. Qui indique la route. Il est la marque de Dieu le Père qui nous indique le chemin que nous devons suivre. C'est très important d'avoir des repères. Pour ceux qui sont comme moi et qui aiment la randonnée pédestre, nous nous repérons par des balises, des couleurs, des repères en fonction de l'itinéraire que nous avons choisi. 10, 20, 30, 40, 50 kilomètres, il y a différentes couleurs. Je me souviens d'une randonnée, c'est pour prendre une image. Avec mon épouse, elle était venue avec moi, elle est partie sur une randonnée de 30 kilomètres. Et nous avions démarré de cette ville qui se trouve dans le Haut-Doubs, Pontarlier, et nous devions suivre un itinéraire qui nous amenait sur des chemins en France, mais en même temps, on devait à un moment donné passer la frontière et on allait ensuite continuer l'itinéraire en Suisse. Et après, on revenait, c'était une boucle, et on revenait à Pontarlier, donc en France. On a pris le départ, il y avait les marques, il n'y avait pas de problème. On a passé la frontière. Alors là, arrivé en Suisse, pas de problème. L'itinéraire, il n'est même pas en couleur. Il est balisé par des panneaux en vous disant l'endroit et les heures, les minutes qui correspondent au temps de marche. Ça, c'est les Suisses, ils sont précis. Comme l'horlogerie, précis. Et puis, la boucle continue. Puis à un moment donné, on voit très bien la frontière, il y a un drapeau français, d'un côté le drapeau suisse. Nous sommes encore en Suisse et on voit qu'on va passer la frontière. On arrive, il y a une ferme avec le drapeau, on passe la frontière, on continue l'itinéraire, et au bout, je crois, de 3, 4, 5 kilomètres, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus du tout de balises, de repères. En définitive, ils n'avaient pas entretenu le chemin. Pas en Suisse, hein, en France. Et donc, il n'y avait plus de couleurs. Ça s'était effacé avec le temps, avec les intempéries. C'est un endroit où il fait froid, c'est un endroit où il neige, etc. C'est effacé. Alors, on avait une carte, genre de carte topographique. Et puis, je dis à mon épouse, écoute, on va essayer de passer par là, par là. Et en définitive, on devait faire 30 kilomètres. Et si je me trompe pas, on a rajouté au moins de 10 bornes parce qu'on a tourné en rond. Et à un moment donné, je dis à ma femme, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on est passé par là. Et puis c'était vrai. On tournait en rond. Alors à un moment donné, eh bien, on a récupéré une route et puis on est arrivé à la frontière. Et là, on a été arrêté par les douaniers. Parce que normalement, passer la frontière par des chemins de randonnée, et vous n'êtes pas arrêté par la douane. Mais là, on était sur la route, donc ils nous ont arrêtés, nous demandant nos papiers, qu'est-ce qu'on avait dans notre sac, et je passerai les détails, c'est pas du tout intéressant, mais pour vous dire que on a tout simplement été affolé, perdu. On ne savait plus où on en était. Et le temps passait et on commençait à fatiguer. On a besoin d'un balisage, d'une marque. Jésus est une marque, je vais le dire ainsi, qui ne passera jamais. Jésus est la marque du Père qui, eh bien, ne s'effacera jamais. Alléluia. Il est donc le rocher, une marque, un balisage qui nous permet de voir où est le chemin, l'itinéraire, suivre la bonne route. Et Christ est le rocher qui indique la route. Je prends un autre exemple, quand nous sommes, alors vous allez me dire, mais avec le GPS, oui mais attention, les GPS, s'ils ne sont pas remis à jour, il y a des villes où ça bouge beaucoup. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour ne pas nous tromper? On va se diriger en fonction des panneaux qu'il y a en ville, pour connaître la direction, le lieu, et ça rend bien service, ça indique la direction, c'est utile, ça rassure. C'est une très bonne chose, et Jésus est ce panneau indicateur, il est le rocher. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleure pierre itinéraire que lui. La seule chose que j'ai à faire, et David l'avait compris, en relation avec Jonathan, avec un code précis, je vais y revenir dans quelques instants, mais la seule chose que nous avons à faire, c'est de laisser Dieu agir. Et pour aller plus loin sur cette expression qui est de laisser Dieu agir, j'en prends une autre sur laquelle je m'arrête quelques instants, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise va permettre à Dieu, en Jésus-Christ, le rocher, de prendre réellement le contrôle. Pour que je ne tourne pas en rond, pour que je ne me perde pas, pour que je ne m'épuise pas. Certains d'entre vous, comme moi, ont certainement lu cet excellent livre de John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Et il est très bien ce livre. Et à un moment donné, on voit que le pèlerin, pour aller un peu plus vite, il va sortir du chemin, il va sortir du sentier, et toute l'histoire là est développée pour montrer qu'il a fait une grave erreur. En croyant raccourcir, en croyant aller plus vite, en croyant que ainsi il va pouvoir, eh bien, atteindre le but plus facilement, il s'est compliqué la vie, il s'est mis en danger, il s'est mis en difficulté, il a failli tout perdre. Ça tourne autour de ça et c'est très intéressant parce que ça nous met face à nous-mêmes, face à notre propre vie chrétienne, face à notre propre marche chrétienne, où nous avons besoin de réaliser qu'à tout moment, on peut sortir de l'itinéraire parce que on ne lâche pas prise. Le Seigneur me pousse en ce moment énormément à insister là-dessus. Et pour ceux qui viennent régulièrement aux réunions, eh bien, ils s'en rendent compte et l'Esprit de Dieu me le montre et j'obéis. C'est d'insister sur le fait que beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui veulent tout contrôler. Et ça, c'est un piège. Tout contrôler sur le plan spirituel. Alors, il faut bien sûr être dans l'équilibre, mais tout contrôler est un danger. Il faut que nos cultes soient contrôlés. Oui, il y a de l'équilibre. Mais dans l'équilibre, il faut laisser, et cela n'est pas, en contradiction, il faut laisser le soin au Saint-Esprit d'agir. Et dans nos assemblées de Dieu, Église évangélique de Pentecôte, mouvement de Pentecôte, je suis convaincu que si nous revenons à cette liberté spirituelle et équilibre, bien sûr, de laisser le soin à Dieu, au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu de diriger toutes choses, alors nous allons vivre de grands moments. Il faut lâcher prise. Permettre ainsi à Dieu de prendre, au Saint-Esprit de prendre réellement le contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Lâcher prise n'est pas se résigner. Lâcher prise n'est pas se défiler, bien sûr. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner dans le sens de dire, eh bien, je laisse tout tomber. Non, lâcher prise, c'est pas renoncer. Lâcher prise, c'est pas fuir. Et la liste n'est pas du tout exhaustive. Lâcher prise, c'est quoi ? Lâcher prise, c'est réellement, profondément, faire confiance au Seigneur. On a chanté ce chant, pas aujourd'hui, mais je crois dimanche dernier, « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » J'aime ce chant. Vous le connaissez. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Allez, je me lance, je me risque. Avez-vous tout abandonné ? Tout ? Entre ses mains. Pas entre les mains de n'importe qui, entre les mains du rocher de notre salut. Entre les mains de Jésus. Lâchez prise. C'est lui faire confiance. Lâcher prise, c'est, on y reviendra toujours, c'est important, c'est s'unir à Christ. C'est ne faire qu'un avec lui. Lâcher prise, c'est l'abandon, donc, du désir de contrôle. Lâcher prise, c'est vaincre ses peurs, ses craintes. On l'a chanté tout à l'heure. C'est comme tous ceux qui aiment la haute montagne et qui aiment particulièrement l'escalade ou qui aiment marcher en haute montagne. Si un jour ça, comment dire, vous avez envie, peut-être pas de l'escalade, mais de marcher en haute montagne, je vous encourage vraiment de ne pas y aller seul et de prendre un guide. Que c'est dangereux. D'ailleurs, tous ceux qui sont conscients du risque de la montagne, que ce soit les Alpes, etc., les Pyrénées, ils vont prendre un guide. Parce que le guide, lui, il sait, il connaît. Il connaît les endroits, il sait où c'est dangereux, etc. Et les guides de montagne, quand ils ont donc avec eux des clients, il leur demande une chose, au moins deux. La première, c'est que dans certains sentiers, certains endroits, alors s'il y a de la neige, d'autant plus, mais dans certains lieux, dans certains endroits, il leur demande toujours ceci, de mettre leurs pas là où il a posé les siens. Alors, on pourrait dire, après tout, quand on regarde le sentier, on a envie de dire, mais quand même, vous exagérez, je pourrais marcher là. Oui, mais là, tu sais pas une chose, mais lui, il le sait, c'est que c'est friable et tu risques peut-être de tomber et de te tuer. Mais lui, il le sait, il connaît. C'est une sécurité dans la direction que nous avons choisi de prendre en haute montagne. Et puis, il y a une autre chose qu'il peut demander en fonction de la difficulté, c'est de s'encorder derrière lui. Ça, c'est une sécurité supplémentaire. Et lâcher prise, c'est justement cela. C'est s'encorder, si je puis rester sur cette belle image, s'encorder à Christ. S'encorder les uns les autres derrière Christ. Comme David va choisir cette démarche-là par rapport à sa démarche, à la direction qu'il doit prendre, à la protection dont il a besoin. Marchons avec, pas seulement avec Jésus, mais marchons à sa suite. Vous savez, je vais un peu plus loin dans le développement de cette méditation, en prenant d'autres exemples, d'autres personnages bibliques. Je vais revenir à David dans quelques instants, mais je rajouterai l'exemple d'Abraham. cet exemple qui ne peut que nous toucher encore et encore, quelle démarche de foi, de confiance, en définitive, d'union avec Dieu, d'abandon, du désir, de tout contrôle. Il a besoin de vaincre aussi ses peurs. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 1er, quand le Seigneur, l'Éternel, lui dit, bien, tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tu, maintenant, va dans un pays que je vais te montrer. Tu laisses tout. La maison de ton père également, va. Je vais te montrer. L'itinéraire, c'est Dieu qui va lui montrer. La même chose. L'itinéraire, c'est Dieu qui va lui montrer. Supposez que Abraham dise, oui, je crois en toi, oui, il n'y a pas de problème, mais permets-moi quand même de choisir le chemin par lequel je peux aller là, au but que tu me fixes. Non, c'est moi qui veux te conduire. C'est pas à nous, ce n'est pas à Abraham, ce n'est pas à David, ce n'est pas à Paul, selon les textes du Nouveau Testament, qui, ou nous-mêmes qui devons dire à Dieu, ils ne l'ont pas fait, mais nous qui devons dire à Dieu, Seigneur, si je pouvais prendre ce chemin. Vous l'avez compris, j'insiste là-dessus, le chemin que je vais prendre, ou que je veux prendre, si je le prends, ça démontre une chose, c'est que je ne laisse pas Dieu agir. C'est que je ne lui fais pas confiance, c'est que je ne lâche pas prise. Il y a une chose que je fais quand je conduis un culte du début jusqu'à la fin, ça m'arrive, je fais chanter, je prêche, je m'occupe de la Sainte-Seine, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Il y a une chose que je fais, je prépare toute chose. Bien sûr que je prépare mon culte. Je prépare le culte. Je prépare les chants, je prépare tout, paf, tout est bien préparé dans la prière. Mais il y a une chose que je fais, c'est que quand je suis dans la prière avant le culte, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai tout préparé, mais si tu veux que je fasse autrement, n'hésite pas. C'est pas moi qui dis, Seigneur, j'ai tout préparé, allez, on y va. C'est, Seigneur, j'ai préparé, mais je compte sur toi, si tu veux agir autrement, tu as quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à manifester, tu es le maître. Alléluia, c'est toi le maître de l'Église. C'est toi qui t'appelais à diriger toute chose. Et Abraham, pour revenir à Abraham, il a un choix à faire, lâcher prise ou pas. Partir, c'est pas facile pour lui parce que c'est une rupture avec son cadre de vie. C'est une rupture avec ses racines. C'est une rupture avec son environnement auquel il est habitué. Mais ce lâcher prise permet à Dieu d'être pleinement présent dans la vie d'Abraham, d'accompagner Abraham, de protéger Abraham. Cela permet de prendre en compte l'importance de l'action de Dieu dans sa vie et il va le vivre ainsi. Mes frères et sœurs, pour revenir à David, il a besoin de cela. Par rapport à une situation compliquée, la question que je vous pose est celle-ci. Vivez-vous un moment compliqué, une période compliquée, des difficultés, des combats, des oppositions? Vous allez certainement me dire oui. D'une manière ou d'une autre, oui. Et donc le Seigneur veut nous permettre d'avoir toutes les conditions qui vont faire que je vais enfin être rassuré parce que je sais quelle est la route que je dois suivre tout en étant sous sa protection. Et quand je reviens au texte de tout à l'heure et je prends un peu le contexte dans le chapitre 19, le premier livre de Samuel, chapitre 19, verset 2. Il est écrit que Jonathan va informer, bien sûr, David, qui veut le faire mourir, et il va lui dire, sois sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Quand nous lisons le chapitre 20, de nouveau, et le verset 6, on ne l'a pas lu tout à l'heure, Jonathan dit à David, David dit à Jonathan, si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Il y a une démarche où également au verset 5, le contexte. David va dire ceci. Je vais me cacher dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Retenez bien ça. Je vais me cacher dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Et puis, verset 19, nous l'avons lu tout à l'heure, tu resteras caché près de la pierre des ailes. Et avec insistance dans les trois textes, nous voyons la nécessité de se cacher qui est profondément souligné. Et ce verbe « cacher » évoque la vie du chrétien, non pas dans le sens de rester en deçà de la présence de Dieu, bien sûr que non, en deçà de l'Église, bien sûr que non, mais ce verbe évoque la vie du chrétien dans l'intimité du Seigneur Jésus, j'insiste. C'est l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 3, qui dira que notre vie, elle est cachée avec Christ, en Dieu. Elle est cachée. Elle est dans cette intimité. Elle est dans cette unité. Elle est dans cette communion. Elle est dans cet abandon. Elle est dans ce lâcher prise entre ses mains. Pour connaître la bonne direction, toujours aller vers le but, mais aussi en même temps, pour être sous sa protection, le suivre lui, le rocher. Et tout à l'heure, j'ai cité ce verset, je vous dis, notez-le bien, je me cacherai, dit David, dans les champs jusqu'au troisième jour. Au verset 19, chapitre 20, tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Il revient là-dessus et tu resteras près de la pierre des ailes. Ce sont des expressions qui sont riches en signification spirituelle. Le verbe ici, dans le sens « tu descends »,« tu descendras », le verbe « descendre » suggère quelle notion par rapport justement au lâcher-prise, à l'abandon, par rapport à Christ, le rocher qui nous montre la direction, qui nous accorde une protection. Ça suggère tout d'abord la réalité d'une humilité. Pour lâcher-prise, il faut de l'humilité. Il faut réaliser que tout seul, on ne peut pas. Il faut réaliser que malgré notre connaissance de ceci, de cela, on ne va pas aboutir si je ne m'humilie pas en disant, Seigneur, contrôle ma vie, dirige ma vie, protège-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre, afin que je ne m'égare pas. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu étais. Tu descends, une notion d'humilité. Et sur ce point-là, je voudrais juste citer deux exemples bibliques. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, pareil, du verset 1er à 10, nous connaissons l'histoire, c'est Zachée, chef des publicains, collecteur d'impôts. Il est sur son sycomore, là, dans cette ville de Jéricho, il veut voir passer Jésus. Jésus s'arrête parce qu'il sait tout, il est omniscient, il est Dieu. Et là, il dit, Zachée, descends. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, pareil, de la même manière que David, qu'Abraham, que tant d'autres dans la Bible, tant d'autres, même pour nous, ça nous parle, il y a deux choix. Soit je descends et je m'humilie, et je laisse le Seigneur apporter la bénédiction à ma vie, soit je reste là où je suis en disant non, non, je suis bien là, je ne bougerai pas. Que vous le vouliez ou pas, en tant que chrétien, nous avons un libre arbitre. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est né de nouveau que l'on est des robots, hein. Non, on a un libre arbitre. On peut faire des choix. Et pour faire les bons choix, selon Dieu, il faut, et ce message de ce matin va bien sûr dans ce sens-là, rester, demeurer en Christ, notre protection, celui qui nous montre où nous devons aller, comment nous devons, eh bien, marcher, à quel rythme, de quelle manière, mais il faut que je m'humilie sous sa puissante main. pour que lui, en son temps, m'élève, au temps convenable, bien sûr, selon sa volonté. Vous avez un autre homme dans la Bible, c'est Daniel, le prophète, qui lui aussi, par le fait qu'il est très attaché à Dieu, il aime le Seigneur, il est, je reprends l'image de tout à l'heure, il est encordé au Seigneur. Et dans le chapitre 6, alors qu'il s'oppose au roi de Babylone, Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Ce n'est pas des petits chatons qu'il y a, des lions. Et quand il est dit qu'il va être jeté, ça a la même notion que ce verbe « descendre ». Vous préférez, il va être descendu dans cette fosse. Daniel est pourtant là déjà dans une grande difficulté, quelque part, avec le peuple qui est le sien, le peuple de Dieu. Il est déporté avec eux à Babylone. Et comme il refuse, je l'ai dit, je le répète, de se plier au roi, car le roi, dans ses ordres, veut pousser Daniel à aller à l'encontre de sa foi en Dieu, alors il va subir ce châtiment. Il va être jeté, il va descendre. Mais malgré cette épreuve, malgré qu'il est jeté dans cette fosse aux lions, malgré qu'il descend dans cette fosse aux lions, mes frères et sœurs, c'est vraiment lâcher prise. C'est vraiment abandonner. C'est vraiment faire confiance au Seigneur. Pardonner du peu. Mais le Seigneur ne va pas le laisser tomber quand on lâche prise, quand on s'humilie, quand on accepte de descendre, d'arriver à un niveau qui va plaire à Dieu. Alléluia. Alors, comme pour Daniel, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré les dangers, malgré les menaces de l'adversaire, le Seigneur est présent avec nous. Et c'est lui qui ferme la gueule des lions. Il est celui, lui, le lion de la tribu de Judas. C'est quand même différent. Il va fermer la gueule du lion qui cherche à dévorer, à détruire tout sur son passage. Et s'il peut détruire l'église de Groyer, il va le faire. Non, il ne le fera pas. C'est pour ça que je ne comprends pas les amens. Oui, dans le sens qu'il veut le faire. Mais il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi de nous humilier. Et si nous choisissons un grand nombre de nous humilier, de descendre, d'être comme Dieu veut que l'on soit, sous sa protection, dans sa direction, alors le diable ne pourra pas y arriver. Par contre, si quelqu'un au milieu du groupe qui a décidé de s'humilier, de chercher la direction de Dieu, la protection de Dieu, alléluia, quelqu'un a décidé de ne pas suivre cette direction, alors lui, par contre, ou elle, se met en danger individuellement devant l'adversaire. Notre seule protection, c'est pas ce lieu, c'est pas le fait que j'ai une Bible dans mon sac. Je vous dis ça parce que malheureusement, il y a beaucoup de superstitions dans notre monde. Ce n'est pas le fait que je connaisse la Bible de A à Z, mais c'est le fait que tout simplement, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Prends tout, Seigneur. Ma vie, mon couple, ma famille, le présent, l'avenir, je ne veux plus rien contrôler. Parce que si vous réfléchissez bien, mes frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas été, malheureusement, dans de grandes difficultés parce que nous avons voulu tout contrôler ? Vous en souvenez ? Vous avez des exemples dans votre mémoire ? Réfléchissez bien. Et si vous ne vous en souvenez pas d'ici ce soir, réfléchissez. Dieu va vous montrer. Il va vous dire, tiens, tu te rappelles, là ? C'est vrai, Seigneur. Mais aujourd'hui, dans cet avant-dernier dimanche du mois d'avril 2018, je décide de lâcher prise, de m'abandonner à toi, le rocher de mon salut, celui qui veut passer devant. Et nous avons vu qu'il y a cette idée du troisième jour, le troisième jour. Ça parle de quoi? De la résurrection, qui suit la phase de la mort. Et c'est quand nous sommes morts, et là je viens sur ce terrain-là, je viens sur ce terrain, c'est quand nous sommes morts à nos désirs propres, quand nous mourons à nous-mêmes, enfin, que nous devenons sensibles réellement à la direction de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Il faut mourir à soi-même. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie, elle est dans la caractéristique de lâcher prise. C'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. En tant qu'homme, il est sur la terre. Je la vis dans la foi, donc il lâche prise. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu, en Jésus, le rocher, celui qui nous protège, celui qui montre la direction. Alléluia. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi à la croix du calvaire, qui est mort. Mais le troisième jour, selon les Écritures, il est ressuscité. Alléluia. Quand on meurt à nos désirs propres, nous devenons sensibles à la direction divine. Celui que dit l'Évangile qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui s'abandonne, il la retrouve d'une manière différente, selon Dieu, selon les principes de la parole de Dieu. Je prends un exemple, c'est ces deux hommes, ils ne peuvent que nous toucher, Josué et Caleb. Pardonnez du peu, mais Josué et Caleb, ils sont au milieu d'une majorité. C'est pour ça que la majorité n'a pas toujours raison. Hein. Ils sont au milieu d'une majorité qui ont décidé de rester dans l'incrédulité par rapport au pays de la promesse. Et ces deux hommes, eux, eh bien, ils s'opposent à cette majorité parce qu'ils ne suivent pas ce processus spirituel qui est de lâcher prise, de s'abandonner, de croire dans les promesses de Dieu, de dire « Seigneur, tu as raison et toi, tu vas nous conduire dans la bonne direction, de victoire en victoire et tu vas nous permettre de rentrer dans ce pays de la promesse puisque tu l'as promis, tu vas le faire. » Mais pour que Josué et Caleb en arrivent là, il a fallu qu'ils meurent à eux-mêmes. Parce que quand on n'est pas mort à soi-même, ça veut dire à notre chair, et tous les jours, mes frères et sœurs, vous avez besoin, comme moi, de progresser dans cette vérité spirituelle qui est de vous sanctifier par l'attachement à la parole de Dieu, à Christ. La vérité nous sanctifie, Christ nous sanctifie, l'Esprit de Dieu nous amène dans cette réalité de sanctification progressive tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. La mort à soi-même, et quand on ne meurt pas à soi-même, automatiquement, si on rencontre quelqu'un qui également n'est pas mort à soi-même et décide d'agir selon sa chair, alors on va le suivre. Et ça, c'est un danger qui guette tout croyant, qui revienne à leurs principes propres, à leur propre chair, à leur propre volonté, pour que ça soit eux qui décident. Alors il n'y a plus de lâcher prise, il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus une vie installée sur le rocher, il y a une vie installée sur autre chose, mais plus sur Christ, plus sur la volonté de Christ, la direction de Christ, la protection de Christ, et tout cela est dramatique. Josué et Caleb ont décidé de faire autrement, alors ils ont survécu aux 40 années passées dans le désert, les autres petit à petit sont décédés. Vous imaginez, mettez-vous à leur place. Pendant 40 ans, ils ont vu leur génération décéder, les uns derrière les autres, c'était le plan de Dieu, parce que ces hommes et femmes avaient désobéi à Dieu, ne voulaient pas de la protection de Dieu, ne voulaient pas de la direction de Dieu, ne croyaient pas dans les plans de Dieu, alors tous les uns les autres, ils sont partis. Et il n'y en a que deux qui sont restés avec la nouvelle génération qui est née par la suite pendant les 40 années passées dans le désert. Vous imaginez leurs amis, leurs proches, ceux qu'ils connaissaient, ceux avec qui ils ont cheminé, ceux avec qui ils ont vécu des moments difficiles en Égypte, ils les voient mourir et ne pas profiter du pays de la promesse parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher prise. Mes frères et sœurs, dites-vous une chose sur le plan individuel. Quand bien même quelqu'un à côté de vous et vous allez prier pour lui, ne veut pas lâcher prise, ne veut pas s'abandonner entre les mains de Dieu, sur le rocher du salut qui protège et qui montre la direction. Vous allez prier pour lui pour qu'il change. Maintenant, il a un libre arbitre. S'il ne veut pas changer, ça risque d'être dramatique. Et aujourd'hui, il y a des pièges subtils, insidieux, pas seulement venant du dehors, mais venant aussi de l'intérieur, des luttes au dedans, des luttes au dehors. Il y a des réalités spirituelles, et parfois même, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, il y a une chose qui peut nous amener dans ce piège, c'est la routine. J'en parlais hier dans la préparation au mariage pour Thierry et Claudine. Il y a des choses qui peuvent détruire un couple, qui peuvent détruire l'amour. L'amour peut être agressé et se fragiliser. Il y a des couples qui partent dans tous les sens parce qu'ils ne savent pas entretenir leur couple, prendre soin de cette valeur, de cette richesse qu'est l'amour. Mais sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, il y a cette richesse spirituelle qu'est l'amour. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, la direction qui nous montre. Et puis, cette usure, cette routine peut effectivement créer bien des dégâts. Ils ont plus tard franchi le Jourdain, puis ils ont vu la fidélité et la gloire de l'Éternel dans leur vie. Par contre, le reste du peuple a péri, en effet. Et je terminerai avec les trois fameuses flèches, ça va être très très court, que Jonathan va tirer. Et là, ils se sont tout simplement, David et Jonathan, entendus pour un code. Et vous l'avez lu avec moi. Et mes frères et sœurs, je retiens ici une chose. Par rapport à ces trois flèches tirées par Jonathan, pour savoir ce qu'il faut faire, à ce moment-là, pour David, qui est près du rocher des ailes, il y a une direction, c'est le départ d'une route, il a protection. Mes frères et sœurs, nous aussi, il faut viser vers un but. Quel est votre but ? Déjà pour vous-même et pour l'église de Groyer dans laquelle vous êtes depuis des années. Quel est votre but ? Il faut viser vers un but, il faut avoir des objectifs. Quels sont vos objectifs pour l'église de Groyer ? Vous attendez quoi ? Vous attendez tout de moi ? Alors vous allez perdre votre temps. Moi, à un moment donné, Dieu peut me demander de partir. Vous êtes conscient de cela. C'est Dieu qui décide. Mais quel est votre but ? Ça fait combien d'années qu'existe cette église ? On a fêté le jubilé. 50 ans. Elle a été déclarée. Mais avant cela, il y avait un groupe de chrétiens qui existait. N'est-ce pas ? Donc ça fait quand même des années. Combien de croyants ont-ils lâché la main de Dieu ? Combien de croyants sont-ils retournés vers les idoles ? Combien de croyants sont-ils allés vers des fausses doctrines ? Vous les comptez ? C'est pas seulement Groyer, c'est toutes les églises. Oui, mais ça c'est naturel. Je parle de ceux qui sont encore vivants. Mais il y en a certains qui sont partis puis qui sont morts. Ben oui. Mes frères et sœurs, quel est notre but ? Quel est notre objectif ? C'est de venir, je vous interpelle, hein, mais c'est important, c'est de venir tous les dimanches matins au culte fidèlement et puis après ça s'arrête ? Les réunions de prière, on n'a jamais le temps ? Les réunions d'évangélisation, ça ne nous intéresse pas ? Je ne dis pas ça pour vous, de manière générale. Du moment que le pasteur prêche pas trop longtemps, du moment que, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas répondre à des gens qui ne se fixent pas des buts à atteindre selon ou conforme à la volonté de Dieu. En vérité, nous avons tous connu dans nos vies des saisons différentes. Moi, j'ai connu les années 80. Je ne suis pas nostalgique, mais je me souviens de ces périodes des années 80, dans l'église, dans les églises. Et j'aimerais tellement que cette vie de l'esprit vous saisisse. tous, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Et si certains réussissent à traverser les temps les plus rudes, ce n'est pas qu'ils soient meilleurs ou plus qualifiés, mais c'est simplement parce qu'ils ont dans leur ligne de mire un but à atteindre. Je voudrais vous donner juste ce témoignage de cette femme qui est atteinte de leucémie, c'est une histoire vraie, elle est atteinte de leucémie, une leucémie est diagnostiquée, et à qui les médecins donc ont donné très peu de chances de survie. Et cette femme atteinte de leucémie est une chrétienne. Parce que quand on est chrétien, on peut être malade. Et cette femme a dit ceci, « Pasteur, je me battrai jusqu'au bout. » Et elle rajoute, « Pourquoi pas, c'est un but. C'est un objectif pour mes enfants. » Et quelques mois plus tard, et d'une manière miraculeuse, elle fut totalement guérie. Il faut croire, mes bien-aimés, que Dieu avait déposé donc sur son cœur un but beaucoup plus fort que la douleur qu'elle endurait, que la souffrance qu'elle vivait, celui de voir ses enfants grandir. C'est un but, c'est un objectif. Et ceci fut également le cas pour l'apôtre Paul qui rencontra bien des péripéties sur sa route, bien des oppositions, des persécutions, et qui cependant restera intraitable, il ira jusqu'au bout, et d'ailleurs il va dire à Timothée ceci, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne elle m'est réservée. » Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Alors, quel que soit votre but que vous poursuivez, ne regardez pas en arrière si vous voulez l'atteindre. Arrêtez de regarder dans le passé, certains. Arrêtez. Sinon, vous n'atteindrez jamais rien. Le Seigneur vous montre ce qu'il faut atteindre. La ville de Groyer, ce secteur du Tarn. Ce qui est fait est passé. On n'y revient pas. Et demain est plus important qu'hier. Et le souhait de Dieu, c'est que nous avancions. Et Ésaïe 43, verset 18, et je termine sur ce verset. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Mais regardez, je rajoute, à Jésus, au Seigneur, au rocher, trouvez. Ce refuge, il est là à votre disposition. Laissez-le vous entourer de toutes parts. Laissez-le vous montrer le chemin que vous devez suivre. Atteignez le but, les objectifs selon sa volonté, qui est de gagner des âmes, qui est de sauver des âmes, qui est d'atteindre les membres de vos familles, vos enfants. Certains sont rétrogrades. Que vous puissiez les ramener par votre témoignage, par votre engagement, par votre fidélité aux réunions de l'Église, de Groyer, dans les temps de prière, les combats dans la prière, les jeûnes et prières. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur va tirer toutes ses flèches pour nous montrer cette direction. C'est la parole, c'est la conviction intérieure créée par le Saint-Esprit dans la prière et la volonté d'obéir. Et c'est les circonstances extérieures qui confirment ce qui a été discerné. Alléluia, voilà les trois flèches. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je veux te bénir, mon Dieu. Je veux te bénir, mon roi. Et je te prie tout simplement, pour que ta parole qui est permanente et vivante, ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui ne revient jamais à toi sans avoir produit l'effet voulu, qu'il en soit ainsi dans le cœur de ses frères et de ses sœurs, qu'il en soit ainsi dans le cœur de ceux qui commencent à s'approcher de toi, qu'il en soit ainsi dans le cœur de ceux qui n'étaient pas là ce matin, à l'écoute de ce message, mais qui étaient dans une autre église, dans leur lieu de villégiature, et là encore, tu les as touchés. Je prie pour qu'ici, comme ailleurs, dans notre pays de France, dans nos assemblées de Dieu, dans nos églises évangéliques, mon Dieu, il y ait ce retour, cet abandon. Seigneur, ce lâcher prise. Seigneur, toi seul dirige, toi seul passe devant. Apporte cette bénédiction qui en découle à l'église locale, mais aussi à nos familles, à nos foyers, à nos couples. Père, au nom de Jésus, à nos collègues de travail, fais éclater ta gloire. Et bénis cette œuvre. dans le nom de Jésus et que nous soyons tous proches de ce rocher des ailes, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.